Pour ceux qui ne connaîtraient pas le groupe, qu'est-ce que tu peux nous en dire?
Eh ben écoute, Machine Combo, c'est un groupe de rap metal. On a une très belle définition avant de quelqu'un qui nous a dit que c'était du néo-metal 2.0. Et on trouvait que ça correspondait pas mal à notre style de musique, en fait. C'est un mélange, ouais, de hip-hop et de metal moderne sous fond de culture geek.
D'accord. D'où le nom?
D'où le nom, ouais, exactement, ouais.
Ça a commencé quand, l'aventure?
Alors l'aventure, ça a commencé en 2015, je crois, à peu près, où il y avait pas vraiment, où Smash It n'était pas vraiment un groupe de rap metal, c'était vraiment un groupe de hardcore, et en fait on a fait un jour un featuring avec un gars qui répétait dans le local à côté de chez nous, qui s'appelle Paul, et qui est devenu notre chanteur, et on a décidé à ce moment-là de mélanger du rap et du metal, et ça doit faire depuis 2007 à peu près, là, que tout est en place, et puis quelques années là, et puis...
Donc t'as déjà donné un peu, dans quelle catégorie vous rangez, mais peut-être plus d'essayer de définir votre style à travers peut-être les groupes qui font l'unanimité parmi les membres.
Bah écoute, déjà, tu veux parler de nos influences, tout ça?
Ouais.
Mmh. Bah écoute, on est très influencé par déjà ce qui était néo-metal, ce qui était Korn, Limp Bizkit, pour les anciens groupes. Concernant les nouveaux groupes, on est vraiment des univers musicaux différents. On écoute vraiment beaucoup de choses, en passant du metal moderne au djent, au death metal, au hip-hop américain, hip-hop français. Voilà, je peux citer des groupes comme Volumes, Emure, Bayard Murder, Incubus, enfin tu vois, on écoute vraiment beaucoup de choses et on essaie vraiment de s'inspirer de ce qu'on aime vraiment dans ces groupes.
D'accord. Le dernier album, c'était Playmore en 2015.
Tout à fait, ouais.
Finalement, qu'est-ce qui s'est passé du groupe depuis la sortie de Playmore?
Bah écoute, beaucoup de choses, beaucoup de concerts, beaucoup de vidéoclips, de tournées à l'étranger aussi. On a fait Canada, Russie, on a pu aller au Japon grâce à Playmore. Et pour nous, pour des geeks, aller au Japon, ça devait être au paradis, quoi.
Mmh.
Donc ça, c'est tout nouveau pour nous, le Japon. Et pas mal de choses, beaucoup de belles rencontres. On a fait travailler avec des gens, des professionnels au top. Vraiment une belle montée en puissance du groupe depuis Playmore. Et ça fait extrêmement plaisir. C'est ça.
D'accord. Tu penses qu'un album, un nouveau disque tous les deux ans, c'est une vitesse tenable sur la durée pour le groupe ou?
Ouais, bien sûr, ouais. Bah écoute, nous, notre plaisir, c'est de faire ça, en fait, c'est de créer des chansons, les partager. Et, en fait, on aime aussi beaucoup proposer à notre public des choses différentes assez fréquemment. Et je pense que tous les deux ans, faire un album, c'est une bonne vitesse, c'est un bon truc, quoi. Ça nous permet aussi un petit peu de se reposer un peu aussi, on fait tourner les compositions, d'être plus créatif aussi, de continuer sur une lignée de création, de garder une certaine dynamique en fait, tout en sachant des fois aussi un peu prendre du recul là-dessus. Mais deux ans, pour nous, ça nous paraît bien et on bosse vraiment dur pour ça et vu qu'on aime faire ça, bah, pour nous, c'est pas dérangeant, en fait, si bien au contraire.
D'accord. Justement, comme tu disais, si on revient sur la période Playmore, est-ce qu'il y a un souvenir en particulier qui tout de suite te revient en mémoire?
Peut-être pas sur la période Playmore, peut-être sur avant, quand on a fait notre première date en Russie, en fait. C'était un événement pour nous qui nous a marqué, je crois, tous les membres du groupe, c'est quand on a joué au Tour à Moscou. Première fois pour nous qu'on partait en Russie, on ne savait pas à quoi s'attendre et on a joué dans une salle qui était pleine à craquer avec un public ultra réceptif et communicatif. Et c'était vraiment, vraiment du bonheur. Enfin, après, sur Playmore, on a fait, comme tu disais, de très belles dates, de très beaux concerts, très beaux festivals. Dernièrement, on a fait le Download aussi qui avait quelque chose de magique pour nous, ne serait-ce programmé au Download pour nous, c'était incroyable et on a vu l'accueil du public pour le nouvel album et surtout que c'était la deuxième date de la sortie du CD quoi. Donc du coup on a vraiment pris beaucoup de plaisir à jouer et pareil les gens étaient au rendez-vous et pour nous c'était vraiment exceptionnel quoi.
Mais les Russes là ils vous connaissaient ou simplement ils ont été pris dans le rythme?
Non, pas du tout, non, ils ne connaissaient pas du tout quoi, c'est ça en fait le truc. C'est que nous on est arrivé en Russie, bonjour, on s'appelle Max Combo, on vient de France et on a joué devant Bad Glen à craquer et les gens ne connaissaient pas, mais c'était super accueillant et super réceptif et c'était vraiment une surprise pour nous et on était aux anges quand on a vu ça quoi. Vu que c'est un public auquel on ne s'était jamais confronté, on savait pas, on partait avec beaucoup de craques, d'appréhension, je crois que c'était une des premières grosses tournées qu'on faisait, on partait presque plus de 10 jours à l'étranger. Pour nous, c'est assez impressionnant et de commencer sur une date comme ça, ça nous a poussé pour tout le reste de la tournée. Et c'est vraiment chouette, quoi. Et moi, toutes les dates de la tournée ont continué dans cette lignée. Et c'est vraiment des souvenirs. On est rentré de Russie avec des souvenirs plein la tête, donc on va y retourner tous les ans. C'est vraiment cool que. Voilà, c'est un de nos plus beaux souvenirs, je crois, sur scène.
Et d'accord, et plus. Comment dirais-je? Sur le terrain, comment un groupe alsacien se retrouve en Russie?
Bah écoute, c'était un, je vais pas dire un concours de circonstances, mais on a été contacté par justement quelqu'un qui s'occupe du banking en Russie. Ils nous ont demandé si simplement ça nous disait pas d'y aller, de faire un tour pour nous bouquer sur des dates. Il a peut-être pris un pari, peut-être un pari risqué sur nous, mais il nous a fait confiance, il a vu le. Je crois que je t'ai dit pas de bêtises, hein. C'est en voyant ma vidéo clip sur YouTube. Il a trouvé ça original et il voyait qu'il y avait de l'énergie et que ça allait bien correspondre à ce qu'il faisait aussi d'habitude. Et il a pris le pari en fait de nous faire venir jouer en Russie et l'accueil a été plus qu'excellent. Et du coup, c'était quelqu'un qui nous a fait confiance en fait. Et puis, on tourne que avec cette personne en Russie. Je crois qu'on va y retourner normalement pour la cinquième fois. C'est vraiment chouette quoi.
D'accord, mais quelle garantie vous prenez? Ça peut être un. C'est pas le niveau de sérieux du mec?
Ah bah écoute, les garanties, il n'avait pas trop, hein. C'est aussi un pari de notre côté quoi.
D'accord.
Donc, on se dit, on va voir en Russie comment ça se passe. De toute façon, on partait du principe qu'il t'entraîne à rien. Si on a l'opportunité de jouer en Russie, on va essayer. Au pire, on se ramasse, on se casse la gueule et tant pis. Mais au mieux, ça marche. Et du coup, c'est pari gagnant pour les deux côtés. Et donc du coup, ça a créé des relations entre nous et une certaine relation de confiance. Et du coup, chacun maintenant est content de repartir. Je pense que lui aussi a pris un gros pari en nous voulant venir. Et le jeu en valait la chandelle en fait.
Pour le setlist, vous preniez que des chansons chantées en anglais ou?
Non, pas du tout, parce qu'à l'époque où la première fois on est parti en Russie, il n'y avait aucune chanson qui était en anglais.
Ah, tout le répertoire, d'accord.
Tout le répertoire était en français et les Russes aussi, ils ont une culture en français, si tu veux. Ils aiment beaucoup ça et ils trouvent ça, ils apprécient énormément que toi tu fasses le déplacement chez eux en fait, pour leur faire découvrir des choses. C'est quelque chose qui les respecte beaucoup. Et quand on a commencé, jusqu'à cet album-là, il n'y avait rien du tout qui était en anglais, par exemple. Tout était en français et ça a marché, quoi.
D'accord. Après Patricia Cass, Machine Combo, quoi.
Et ben voilà, exactement. Tout à fait.
Ok. Donc vous revenez avec un double album.
Oui.
Alors déjà, pourquoi le choix du double album? Et est-ce qu'on vous a pas dit, au niveau business, c'est un peu risqué, ou on le divise en deux, ou on le sort deux fois, on le sort avec deux, en deux parties, ou...
Ouais. Bah écoute, déjà, c'est une volonté de tout le groupe de sortir un double album. Parce que déjà, en tant que geek, on a aussi une culture d'objets, et on voulait proposer un bel objet aux gens qui nous connaissent, ceux qui nous connaissent pas, à notre public, en fait. Et on voulait que les gens puissent avoir un choix, en fait. Que ceux qui ont découvert Smash Hit avec le français puissent continuer à écouter en français, mais en même temps, pour les curieux, il y a cette version en anglais. Et ça marche dans les deux sens, en fait. Et ça a été fait vraiment pas à but marketing ou quoi que ce soit. C'est vraiment une volonté pour nous aussi de se faire un petit challenge à nous-mêmes, de dire, ben voilà, on a composé deux titres, on va faire deux titres en français, on prend les mêmes instrus, par contre, on va bosser à fond sur le chant en anglais. Et du coup, c'est vraiment un challenge et on a envie en fait de faire ça. Donc du coup, on s'est entouré de Josh qui avait déjà fait un featuring avec nous sur Playmore, la chanson 48 heures. Et on avait déjà essayé aussi avec Paul de faire de l'anglais, mais ça marchait pas. Et on s'est rendu compte que pour se confronter à un public qui est plus anglophone et chanter en anglais, on a vraiment besoin de quelqu'un qui a cette culture en fait, qui a les codes, qui a le vocabulaire, qui a l'accent, qui a ce genre de choses. Et du coup, pour nous, à ce moment-là, c'était le moment propice. On avait Josh qui était super chaud de faire sa zone avec nous. Et on s'est dit, bah vas-y, on se lance là-dedans. Ça va être énormément de travail. Les chanteurs, Matt, qui a posé sur l'album en français, a dû recomposer un deuxième album. Enfin, c'était double travail pour lui. Double travail pour Sean, mon guitariste, et qui a produit l'album et l'a enregistré. Donc il avait 24 titres à mixer, ce qui est énorme. Et on faisait beaucoup de travail, dans un but aussi de complémentarité des deux albums, de créer quelque chose d'original, avoir un bel objet et de leur proposer tout ce qu'on fait. Vraiment pas pour un but commercial et on voulait pas faire dans la facilité, c'est-à-dire de prendre des textes en français et de les traduire en anglais ou en arabe. C'est-à-dire que chaque MC en fait faisait, je vais pas dire ça dans son coin, mais éviter de s'inspirer de l'autre en fait, pour vraiment créer quelque chose d'original et différent. C'est pas simplement un copier-coller, c'est tout un gros travail d'écriture sur les morceaux. On reste dans la thématique, mais il y a quand même vraiment pas du tout les mêmes textes, les mêmes passages, les mêmes mélodies. C'est vraiment deux choses complètement différentes et complémentaires l'une de l'autre.
D'accord. Comment tu prononces le titre de l'album?
Alors c'est Lit, ou alors L33T, ou 1337. C'est du Lit Speaking, ça s'appelle. C'est un langage de hacker des années 90. Et en fait, ça mélange les lettres avec les chiffres, en fait.
D'accord.
Et du coup, c'est quelque chose que le concept, quand on est sur Internet, le concept nous paraissait vraiment, vraiment cool. Et on s'est dit, bah voilà, la différence de langage, la différence de culture, bah, ça correspondait vachement bien avec ce double album qu'on voulait faire. Et quand on a proposé Lit, ça parlait à tout le monde. Et on s'est dit, bah voilà, il s'appellera comme ça et pas autrement.
D'accord. En général, comment on est une chanson au sein de Smash It Combo?
Alors, on a chaque fois un peu des façons différentes de travailler sur les différents albums. Pour Lit, on a plus bossé un peu chacun de notre côté, avec les nouvelles technologies, c'est-à-dire des logiciels d'enregistrement, cartes de son, logiciels pour éditer des batteries, créer des batteries électroniques, mais programmer des batteries.
Programmer, ouais.
Donc du coup, on bossait vachement là-dessus et on faisait un peu chacun de nos points, surtout avec Sean de guitariste. On se posait chacun de son côté, puis on se retrouvait et on mettait en commun un peu nos inspirations, ce qu'on avait fait. Et puis voilà, on compose doucement, on essaie de trouver... souvent, on part d'un couplet, en fait. D'un couplet qu'on a trouvé, qui nous plaît. Et après, on brode tout autour dessus, quoi. Et par exemple, quand moi j'ai pas d'idée, je passe le relais à Sean, je dis écoute, j'ai trouvé ça et ça, t'aurais une idée pour mettre pour la suite, et puis il trouve quelque chose, et je dis attends, ça m'inspire à mettre une autre guitare encore par-dessus, et ainsi de suite. Et on a fait pas mal de compos, on a été aussi plus regardant sur les riffs en fait, on a jeté pas mal de choses pour garder vraiment plus le meilleur. Et puis voilà, on s'est vraiment. On a évité vraiment de bosser comme ça sur cet album, mais au final, on est vraiment, vraiment content des chansons que ça a donné. Quoi.
Vous avez réutilisé des éléments à l'époque composés pour Playmore ou c'est du tout neuf?
Ah non, c'est du tout neuf. Hein.
D'accord.
Non, on s'est jamais resservi de choses qu'on a pas fait à la trappe ou du recyclage de riffs, ce genre de choses. Non, c'est vraiment que du neuf et du coup, on avait aussi cette chance que. Justement que Sean s'occupe de la production, c'était un peu lui notre garde-fou, si tu veux. C'est quand on avait des trucs où on pensait que c'était pas assez, lui disait « Ah non, attendez les gars, c'est peut-être un peu trop » ou l'inverse qui marche. Et du coup, ça nous a permis d'avoir une homogénéité au niveau des morceaux, en fait. Tout en gardant un peu ce côté où tu peux retrouver des morceaux beaucoup plus calmes ou des morceaux beaucoup plus violents. Donc, par exemple, Diana Detroit, qui est... C'est 2 minutes 30, c'était 2 minutes 30 de...
Sauvage.
Ouais, voilà, c'est exactement ça, ouais. Ça permet de garder une homogénéité au niveau des chansons, quoi.
Vous avez enregistré où?
Alors, on a tout fait à la maison, chez nous.
D'accord.
On a tout fait, soit notre local de répétition, ou alors chez nous, on ramenait nos guitares, on enregistrait ça, on passait dans sa carte son. Et après, tout ce qui est mix, mastering, il a tout fait ça chez lui, dans son petit studio à la maison. Et puis voilà, le résultat, et le son, on est vraiment, vraiment super content du son. Il avait déjà fait Playmore, et du coup, il a encore, je trouve, passé une étape au-dessus. Quand encore, cet album sonne mieux que Playmore. Et à chaque album, il se perfectionne, comme Bridge quand il fait les clips, chaque clip, il est de mieux en mieux. Et voilà, donc on est vraiment, vraiment super content aussi du son, de l'ambiance qu'il y a sur cet album, de la production, de tout, de ce côté un petit peu électro que je sens un peu rajouté en post-prod. Et il y a vraiment beaucoup d'idées. Et puis le travail avec les chanteurs aussi a été vraiment, vraiment très intéressant. Il a pu driver un peu les chanteurs justement en étant ce garde-fou justement. Et, donc c'est vraiment, vraiment, vraiment très chouette qu'il a fait.
Mais donc vous n'avez plus besoin de structure professionnelle externe, extérieure?
Bah, bien sûr, si, on a toujours besoin de structure professionnelle, mais on reste, en fait, si tu veux, autonome en ce qui est en termes de son et de vidéo aussi. Par contre, on a toujours besoin de travailler avec des profs au niveau du booking, de la promo, ce genre de choses.
D'accord.
Des choses qu'on ne sait pas faire, mais faut savoir que son et Brice, c'est leur métier, en fait.
Ah, d'accord.
C'est leur taf, donc c'est des professionnels.
Ok. Un petit mot sur l'aspect visuel. J'ai lu que c'était Redlock Studio qui avait fait la pochette.
Tout à fait, ouais.
Comment vous avez bossé avec eux? Enfin, c'est vous qui avez donné l'idée? Enfin, cette espèce de méca. Enfin, comment ça s'est passé?
Ouais, bah, en fait, tous nos artworks ont été faits par conçus par Alexandre Masson, qui est notre ami depuis des années. C'est lui qui a fait il a pas fait la première pochette de No Light, mais il a fait toutes les autres, en fait. Donc il travaille avec nous depuis un bon moment, et on était parti sur une idée de méca, donc j'en avais parlé, on avait fait des essais, et à un moment il me dit, mais attends, moi en ce moment je suis en train de travailler au Redlock Studio, je vais voir avec mes collègues s'ils ont pas un méca, et j'y avais vraiment pas pensé, mais et du coup un de ses collègues nous a ramené un petit méca qu'il avait dans son vestiaire. Et du coup, on s'est dit, voilà, c'est génial, c'est complètement ça qui me joue, en plus de travailler avec un éditeur de jeux vidéo français, en plus, c'est juste un échange encore, un échange magnifique pour nous, quoi, de pouvoir travailler avec ces gens-là. Et du coup, c'est lui qui nous a mis sur le truc, et puis Alex a finalisé la pochette, a fait tout le reste de création dessus, et le méca vient d'un designer de Redlock Studio.
Il n'y a pas une référence plus ou moins cachée à l'album de remix de Linkin Park à l'époque?
C'est pas vraiment une référence cachée, c'est plus un petit clin d'œil. En fait, on s'en est aperçu après d'avoir eu l'idée de ce Gundam, et on s'est dit, pourquoi on changerait? Effectivement, c'est un petit clin d'œil à cet album, à cette période, cette génération, et puis on trouvait aussi que le méca correspondait bien en fait, à la production que Sean a pu faire sur cet album, quelque chose d'assez mécanique, je ne vais pas dire froid, tu vois, mais un petit peu pointu, technologique. Enfin, on trouvait vraiment que tout correspondait bien. Et effectivement, on s'est rendu compte que ça, c'est aussi un peu l'album remix de Linkin Park. Et ouais, du coup, ça fait un petit clin d'œil sans être fait exprès, vraiment.
D'accord, c'était un clin d'œil à la période où Linkin Park faisait encore de la musique sans commentaire.
Ouais, mais,
j'ai vu vous vanner sur Facebook sur le sujet, donc
ouais, mais en fait c'est Josh, on a fait un petit truc parce que on trouvait ça rigolo, et c'est lui qui a eu l'idée de faire un peu comme les pubs qu'ils trouvent aux États-Unis avec les avocats qui veulent défendre ce genre de choses. Après, on respecte aussi complètement leur envie de passer à autre chose, hein, clairement. Et ce qui nous a plus fait marrer, c'est la réaction des mecs des Linkin Park, en fait, de Chester notamment.
Mais qu'ils évoluent, pourquoi pas, mais qu'ils l'assument, quoi. Et là, ils n'ont pas beaucoup l'air d'assumer, mais bon, bref.
C'est un peu ça, en fait, qu'on voulait dire. Et le côté de répondre aussi un peu mal à ses fans, bon, ce genre de choses qu'on n'aime pas trop et qu'on trouvait un peu ridicule.
D'accord.
Mais voilà, après, on en parlait encore l'autre jour, on se disait, bah ouais, c'est un peu comme Bring Me The Horizon. C'est un peu aussi, ils ont aussi complètement changé de tour, mais. C'est vrai que c'est plus assumé sur Bringing, en tout cas. Alors
ouais.
Après, est-ce que c'est un coup marketing de Linkin Park de faire un album où justement il n'y a pas de guitare pour mieux revenir en force après? Enfin, tu vois,
on verra.
On ne sait pas, en fait.
Vous avez récemment sorti un clip vidéo pour Blackout?
Oui, tout à fait.
Alors, c'est, a priori, sauf si je me trompe, c'est pas, ça n'a pas été tourné en Alsace.
Non, tu
peux nous dire un peu plus sur le clip et en général, vous qui en avez signé certains, c'est un plaisir ou c'est une galère?
Ah non, c'est la récréation pour lui. Le moment de détente, ça, les clips, c'est juste super. C'est...
Ouais, mais tu fais 25 000 fois la même chose?
Ah, mais non, même pas tant que ça au final. Non. Parce que tu vois, avec Brice, il a l'habitude de faire les clips avec nous et qu'on bosse autonome, on n'est même pas obligé de faire 15 fois le même truc, quoi. C'est juste qu'on fait quelques plans en solo, quelques plans en groupe, et puis après, après Brice, il va choisir ses meilleurs moments dans les rushs. Mais c'est non, c'est loin pas une corvée, hein, au contraire. Hein. Et, on découvre des super beaux endroits. Bah, pour Blackout, on est arrivé, on avait un concert, je crois que c'était dans l'Ouest, si je dis pas de bêtises. Et du coup, Brice, il allait chercher sur Internet, voilà, il allait voir un peu s'il y avait des beaux paysages, ce genre de choses, puis il a trouvé cette île. Où on pouvait y aller accéder en voiture uniquement à marée basse à partir de 11h du matin et il fallait absolument qu'on ait terminé à 16h parce que la marée remontait et qu'on pouvait plus partir de l'île encore.
Mmh.
Donc du coup, après un samedi soir, on a joué, on a dormi à l'hôtel, on s'est mis le réveil à 6h du matin pour pouvoir partir sur cette île et puis on a passé une journée de tournage et on a ramené notre ami Damien qui lui a des drones et on a fait des plans de drones aussi, donc c'était super sympa, super intéressant. Non, c'est jamais une corvée, quoi. Des fois, c'est un peu dur, effectivement, quand il pleut, il fait froid, t'es fatigué, mais au final, c'est un mal pour un bien, parce que les clips, c'est vraiment quelque chose dont on est très fiers et on fait vraiment énormément de clips parce qu'on aime bien mélanger l'image au son, en fait.
D'accord. Pour nous,
c'est quelque chose de très important.
D'accord. Les quelques dernières questions. Qu'est-ce que tu peux nous dire en général sur la scène métal alsacienne? Ça collabore, ça bouge ou?
Ah bah ouais, carrément. Non, ouais. On a des très belles salles déjà en Alsace. Le Grien, Dumas Rouf, la Laiterie. On a pas mal de groupes aussi. On est tous des potes. Ouais, ça se bouge bien. Ça se bouge vraiment bien. Après, faut pas hésiter aussi à bouger et aller voir comment ça se passe ailleurs. C'est un peu ce qu'on fait depuis nos débuts. En fait, on se contente pas de se dire de rester en Alsace ou dans le camp. On se dit, on va essayer de bouger le plus loin possible. Mais sinon, la scène métal, même française en général, je dis, il y a quand même de belles choses qui sont là. Ça fait vraiment plaisir, quoi.
Et la proximité avec l'Allemagne et la Suisse, c'est plutôt un avantage ou un inconvénient?
Ça dépend, en fait. Ça dépend, si tu veux. Parce que.
Il y a Pratteln qui est à côté, mais Pratteln, c'est particulier. Il y a l'Allemagne, bon.
Après, c'est vachement bien quand on fait des concerts, c'est sûr, en Allemagne, on est vraiment à côté. Par contre, le petit point négatif, c'est que le public allemand a vraiment du mal avec le français. On joue vraiment très peu en Allemagne. On joue assez souvent en Suisse, parce qu'il y a quand même la Suisse romande qui est à côté, et puis nos amis aussi d'Alsace ou de Moselle puissent venir nous voir. Mais le gros inconvénient d'habiter en Alsace, c'est qu'il y a très peu de grosses infrastructures, si tu veux, professionnelles. Donc tu vois, on est obligé des fois d'aller sur Paris ou pareil, quand on va jouer en Bretagne, à partir de l'Alsace, c'est plutôt un inconvénient, tu vois.
Ouais.
Alors si on habitait à Paris, on aurait été plus proche du centre, de là où les choses se passent un petit peu plus, et être un peu au centre de la France, ça permet aussi des déplacements qui a moins d'heures, quoi, parce que quand on va jouer à Toulouse, on a 12 heures de voiture ou des trucs comme ça.
Mmh.
Mais c'est on vient de là-bas, on ne le redit pas, bien au contraire, on est très fiers d'habiter là-bas. Et pour nous, on est à Strasbourg, c'est super beau, tu vois.
Oui, pas de ça, c'est tout à fait vrai. Je suis mulhousien, moi, donc.
D'accord, ok, voilà. Nous, on vient de Cernay à la base.
Ouais, c'est ce que j'ai lu.
Voilà.
Juste pour terminer, qu'est-ce qui vous attend dans les mois ou les semaines qui viennent?
Eh ben, écoute, on attend un peu d'avoir un peu plus de retour avec cet album. Il est quand même tout frais, et puis on. Là, pour l'instant, les retours qu'on a, ils sont très positifs. On est très content de tes retours. Dans un avenir proche, on a déjà une tournée québécoise qui a été annoncée à partir du 25 mars jusqu'à début septembre, jusqu'au 4 ou 5, je crois, si je dis pas de bêtises. Et on a pas mal de dates avec les copains de Diars pour leur dernière tournée d'adieu. On a cet honneur de pouvoir faire ces dernières dates avec eux. On est très heureux de ça et pour le futur un peu plus lointain, on espère vraiment que pour nous faire pas mal de festivals européens. Pour 2018, on aimerait énormément des festivals aussi en France, comme le FES, les Européennes, ce genre de choses. Pour nous, c'est des choses très fières. Et puis voilà, encore d'autres tournées en Russie, d'autres tournées au Japon qui se préparent. Et voilà, pas mal de choses. On est en train de préparer aussi un show avec un peu plus de moyens techniques aussi pour proposer quelque chose de plus travaillé et avec des petites surprises en fait. Je ne peux pas en dire plus, mais on travaille dessus.
D'accord, il faut suivre le groupe sur Facebook pour voir un peu toutes les dates et tout ce qui est annoncé, quoi.
Tout à fait, n'hésitez pas à aller sur la page, envoyer des messages si vous avez des questions. Enfin, on répond, on est très réactif dessus. Mais voilà. Donc il y a toutes les infos sur la page Facebook, Instagram, à tous les réseaux sociaux. Quoi.
Ça marche, un grand merci et puis tous mes voeux pour la suite.
Et bien merci beaucoup.
À bientôt.
À bientôt.
Ciao. Salut.